Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce Tour d'horizon du vendredi 6 novembre 2015. Le Tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, je vous propose trois sujets. L'abolition des élections partielles, la baisse des résultats en français dans les écoles secondaires du Québec et les quatre adolescents accusés de complot. Alors bonjour mesdames et messieurs. Oui, trois sujets aujourd'hui attirent notre attention. Alors je vais débuter par l'abolition des élections partielles. C'est une idée de Jean-François Caron qui a été publiée sur le Journal de Montréal. Et il nous rappelait qu'il y a déjà, depuis la dernière élection d'avril 2014, la dernière élection provinciale, il y a déjà 9 députés démissionnaires. Alors ça c'est beaucoup d'argent, c'est quand même plusieurs millions de dollars que l'État a dépensé, et cet argent-là, il l'a pris dans nos poches, mesdames et messieurs. Et ce qu'il propose, lui, c'est d'abolir les élections partielles. Et quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit « Oh, un instant, la démocratie, la représentativité », et il a tout pensé à ça. Et il y a des exemples dans le monde à cet effet, dont les États-Unis et la France. Et il va citer, par exemple, la France, et il va dire que la France a une loi électorale qui limite le cas d'élection partielle en prévoyant, en même temps que l'élection d'un député, celle d'un suppléant appelé à le remplacer en cas de décès, de nomination au gouvernement, ou etc. Alors, ça serait intéressant d'avoir un colistier sur le bulletin de vote. Donc, au lieu d'avoir une élection partielle lorsqu'un député démissionne, lorsqu'un député ou un homme ou une femme dit « Bon, mais moi, pour des raisons X, Y, Z, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons personnelles, etc., des raisons professionnelles. Lorsqu'une personne dit « Bon, ben moi, j'ai été élu, mais je ne veux plus justement remplir ces fonctions-là », la personne démissionne et à l'intérieur de quelques semaines, quelques mois, il y a des élections partielles qui sont déclenchées, des élections dans ce comté-là. Souvent, on regroupe 2 ou 3, 4, 5 comtés ensemble s'il y en a plusieurs qui ont démissionné dans la même période de temps. Comme c'est le cas, on va le voir lundi prochain, il va y avoir 4 élections partielles et, au Québec. Et donc, à ce moment-là, plutôt que de... Parce que ça coûte de l'argent au fonds public, ça, des élections partielles. Ça coûte énormément d'argent. Alors, plusieurs centaines de milliers de dollars à chaque fois qu'on en fait. Alors, ce qui est proposé par Jean-François Caron, c'est ça. C'est que lorsqu'il y a des élections générales, lorsqu'il y a le suffrage universel, lorsque les concitoyens sont appelés à aller aux urnes, eh bien, on a le nom du député et son colistier. Si celui-ci démissionne, eh bien, il y a quelqu'un qui a été élu pour le représenter à ce moment-là. Et si jamais il démissionne ou si jamais il y a un empêchement d'ordre majeur, alors ça coûterait beaucoup moins cher au fonds public. Et ce qui est intéressant, c'est que ça protège la dimension démocratique. Et moi, pourquoi j'en parle, c'est pas seulement parce qu'il y a des élections partielles lundi prochain, mais c'est également parce que, mesdames et messieurs, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que dans tout ça, là, il va y avoir des économies d'argent. Et pourquoi c'est important, ces économies-là? Bien, c'est parce qu'on peut les réinvestir dans des services à la population. Et si c'est le cas, bien, moi, je suis partant. Parce que moi, je suis un partisan de ce que l'État doit dépenser le moins d'argent possible pour sa structure, pour maximiser les services à la population. Les services directs. Si en tant que collectivité, on se donne des tremplins, des moyens pour justement subvenir aux besoins de l'ensemble de la population, eh bien, c'est important qu'on puisse maximiser, avoir un rendement maximal pour nos investissements. Et à ce moment-là, si on fait ça, ça nous permettrait de maximiser l'investissement. Alors, je vous invite à lire cet article-là. L'autre sujet qui attire mon attention, c'est la baisse des résultats en français dans les écoles secondaires. Ça aussi, ça touche le gouvernement provincial, le gouvernement du Québec. Encore une fois, c'est un article qu'on peut voir ce matin dans le Journal de Montréal. Et c'est lié justement à un article qui fait état des meilleures écoles du Québec, le palmarès des écoles de l'Institut Fraser. Et le palmarès des écoles, justement, avant, on mettait toutes les écoles dans un même, si on veut, dans un même tableau. Maintenant, on sépare en deux tableaux les écoles privées des écoles publiques. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au cours des dernières années, ce que le Journal de Montréal nous dit, c'est qu'au cours des dernières années, les résultats des élèves aux examens du ministère ont été relativement stables, à une exception près, dis-je, les résultats de la langue d'enseignement sont en baisse, passant d'une moyenne de 72,8% en 2010 à 69,1% en 2014. Donc, mesdames et messieurs, c'est une baisse de plus de 3%. C'est un recul. On est en dessous de la barre des 70% maintenant. Et donc, à ce moment-là, c'est un résultat qui est à la baisse et c'est inquiétant. Qu'est-ce que ajoute le Journal de Montréal? Ce sont principalement les élèves francophones qui ont moins bien réussi leur examen. On voit le lent déclin, mais qui est quand même statistiquement significatif. On voit un lent déclin, mais qui est quand même statistiquement significatif, affirme Peter Conley de l'Institut Fraser. Donc, un lent déclin qui est significatif. Et donc, si c'est significatif, c'est important qu'on s'y attarde. Écoutez, la langue française, c'est notre langue de communication et c'est important. Et ça commence où? Ben, c'est là où est-ce qu'on l'apprend. On l'apprend en partie à la maison, mais on le raffine, on le développe spécialement et plus particulièrement à l'école. C'est pour ça qu'on va à l'école, pour justement maîtriser d'abord et avant tout notre langue. Notre langue, c'est avec ça qu'on communique. On communique avec, on communique pas seulement avec la langue, on communique aussi avec le non-verbal, avec des signes, tout ça, avec des gestes, etc., avec ce qu'on dégage. Mais le principal outil, le principal organe de communication, c'est la langue. Et c'est inquiétant. Et moi, je trouve ça inquiétant de voir spécialement la nonchalance et le manque d'intérêt. Par exemple, dans les réseaux sociaux pour les gens, spécialement les jeunes, mais pas seulement les jeunes, mais le manque d'intérêt à bien écrire et à bien parler. Et je pense que oui, il y a des moyens qu'on doit mettre en place. Et justement, si on peut économiser sur les élections partielles puis injecter ça pour qu'on puisse améliorer nos résultats en français, spécialement chez nos jeunes, bien, ça serait fort intéressant. Qu'est-ce que le Journal de Montréal ajoute? Mais il va dire que les données du palmarès confirment que les filles réussissent mieux que les garçons sur les bancs d'école, particulièrement en français et en anglais. En 2013-2014, les filles étaient meilleures que leurs camarades masculins en langue d'enseignement dans 96% des écoles. Ça, c'est une tendance lourde, ça. 96% des écoles. Et ça, c'est un autre point qui me dérange parce que on a souvent mentionné depuis les 20-25 dernières années, justement, la problématique des garçons qui ont plus de difficultés à réussir à l'école. Les garçons qui sont en plus grand nombre que les filles à décrocher, à ne pas terminer, par exemple, leur secondaire en 5 années consécutives. Et c'est important que justement on coupe dans les structures, qu'on abolisse les commissions scolaires, qu'on aille tout simplement 17 régies régionales qui sont soumises, par exemple, ou qui sont en communication avec le ministère de l'Éducation. Une par région, c'est suffisant. Et puis, à ce moment-là, on réduit la lourdeur administrative. Maintenant, avec Internet, maintenant, avec les moyens de communication qu'on a, avec les téléphones intelligents, avec Skype, avec Google Hangout, où est-ce qu'on peut faire des téléconférences via le web, eh bien, il n'y a plus de raison d'avoir 70 commissions scolaires. Et si on peut couper là-dedans et investir justement dans la réussite du français puis dans la réussite des garçons, pas au détriment des filles, mais pour ramener un taux équivalent, un taux égal pour que les garçons et les filles puissent compétitionner sainement, dans le sens qu'il puisse y avoir une saine compétitivité. Mais là, l'écart est beaucoup trop grand là, à ce moment-là. Et donc, ce serait important justement que les économies d'échelle dans les structures puissent être réinjectées dans les services directs et ça serait un bon exemple. Le dernier point que j'aimerais, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, dis-je, c'est l'alerte à la bombe qui a eu lieu le mardi 3 novembre dernier. Eh bien, Michel Moyner d'Info 07 nous informe que les 4 adolescents appréhendés mardi soir dernier en Outaouais pour avoir paralysé plus de 70 écoles du Québec ont été principalement accusés de menaces et de complots. D'autres accusations ont été portées et d'autres accusations également pourraient être portées contre eux dans ce dossier. Il s'agit de quatre mineurs, selon Michel Miner. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit c'est trois garçons et une fille de 16 ans et 17 ans qui sont résidents de L'Ange Gardien, Chelsea et Wakefield. Ils ont comparu hier après-midi, jeudi, en chambre de la jeunesse du palais de justice de Gatineau. Et ce qu'il ajoute, c'est que les jeunes suspects, dont on ne peut dévoiler l'identité en raison de leur âge, avaient été accusés de méfaits la veille. Et il ajoute ceci également. Les accusés ont recouvré leur liberté, mais doivent se plier à plusieurs conditions. Entre autres, ils ne peuvent communiquer entre eux, posséder un ordinateur ou un téléphone cellulaire. Ils doivent respecter un couvre-feu et ont dû payer une caution de 500 $. Et ça, c'est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un lien avec le dernier sujet parce qu'ils ont envoyé une lettre prétendant être le Spectre Rouge et ils menaçaient de faire exploser des bombes placées dans les écoles, dans des autobus. Et donc, à ce moment-là, pour mettre fin à la grève ou mettre fin aux revendications du personnel qui travaille dans les écoles, principalement les enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est que ce collectif-là, le Spectre Rouge, a envoyé une lettre qui était truffée de fautes de grammaire. Et on voit un bon exemple, c'est qu'il y avait un souci de revendiquer, ou il y avait un souci justement de faire bouger les choses, mais le souci de bien écrire la lettre, eh bien, c'est très représentatif. Je dirais pas très représentatif, mais c'est représentatif de cette génération. Et malheureusement, et c'est représentatif des résultats qu'on voit là, via l'étude, via le rapport de l'Institut Fraser sur les écoles. Et malheureusement, si le taux de réussite de français est à la baisse, eh bien c'est sûr que ça va se répercuter et ça va être rendu visible. Et malheureusement, ces jeunes-là, bon... Vous me direz, oui, mais Eric, c'est un moindre mal, ça, le problème de français. Je veux dire, une alerte à la bombe, c'est beaucoup plus sérieux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et j'espère que les peines vont être suffisamment sévères pour que ça puisse lancer un signal, non pas à ces jeunes-là, de voir qu'il y a des conséquences à des gestes, il y a des conséquences à mobiliser des gens, il y a des conséquences à garder des enfants dans la terreur, des adultes inquiets. Ça a généré de l'angoisse, de l'incertitude, de l'insécurité. On a déployé des forces de l'ordre qui auraient pu être utilisées à bon escient à d'autres endroits. Et c'est bon qu'on ait déployé les forces de l'ordre pour la sécurité des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas le faire, mais je suis en train de dire que ça aurait pu être évité de cette façon-là si ces jeunes-là n'avaient pas entrepris cette initiative malsaine. Et j'espère tout simplement qu'ils ne sont pas punis plus sévèrement, mais qu'ils ne sont pas non plus punis en deçà des gestes qu'ils ont posés. Moi, je suis un partisan de la justice. En d'autres mots, les conséquences doivent être proportionnelles à l'offense. Et je crois qu'il doit y avoir une peine et une sentence significative pour empêcher d'autres jeunes à vouloir les imiter. Parce que si s'installe un cynisme dans notre système de justice, eh bien, à ce moment-là, savez-vous quoi? Ça va créer un incitatif à d'autres d'agir. Hein? Et il y a un passage d'un artiste, de l'Antiquité. Vous savez, dans l'Antiquité, il y a des gens qui ont composé des chansons. Et dans l'Antiquité, il y a un recueil de chants qui a été très, très populaire. C'est les psaumes. Et savez-vous qu'est-ce que le psalmisme, lorsqu'il a écrit le psaume 12, eh bien, nous dit, au verset 8, « Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Et ça, ce que ça nous dit, c'est que, ça nous dit que justement, ceux qui transgressent les lois, ceux qui causent des méfaits, eh bien, ont libre cours quand on a des standards qui sont peu élevés dans une société. Et il y a un autre passage d'un roi très sage, du roi Salomon, hein, qui nous dit dans son livre intitulé « L'Ecclésiaste », et c'est un livre qui est rempli de sagesse. Et ça nous dit dans Ecclésiaste 8:11 « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et donc, quand il n'y a pas une sentence qui s'exécute promptement, quand il n'y a pas une sentence qui, justement, fait mal, mais que le mal n'est... Et moi, ce que j'ajoute, c'est que ce mal qui est attribué à la sentence doit être proportionnel à l'offense. C'est ça, l'esprit de la justice. Mais quand il n'y a pas une sentence qui s'exécute promptement, eh bien, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. C'est dans l'être humain de faire le mal. Et oui, il y a des mécanismes qui freinent ce mal. Parfois, c'est les lois. Parfois, c'est la conscience. Et pour ceux qui sont croyants en Dieu, eh bien, c'est la foi. Alors, sur ce, mesdames et messieurs... Eh bien, je vois le temps qui file. Alors, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est déjà le temps de clore cette émission. Alors, je vous invite à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour un tour d'horizon. N'oubliez pas, cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net, le www.ericlantier.net. Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Je vous dis donc à lundi prochain. Au revoir.